SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur SBS French ce samedi 13 juillet. Vous êtes en compagnie de Bertrand Tunganame pendant une heure de programme en français. Dans cette édition, une conversation avec le directeur d'orchestre Stéphane Deneuve. Et on sera rejoint aussi par un autre musicien, Justin Taylor, qui est actuellement en tournée avec le Brandenburg Orchestra. Nous parlerons également de sport. Tout de suite, la grande boucle. On retrouve Florian Malézieux au micro de Christophe Mallet.
Eh bien, dans le programme en français sur Radio SBS, c'est toujours le plaisir d'avoir Florent Malézieux avec nous. Salut Florent.
Bonjour Christophe.
Tour de France, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Presque, on peut vous couper les veines, il y a du sang de Tour de France qui coule en vous. On sent que vous avez le plaisir d'être sur ce Tour de France.
Ah oui, effectivement, le Tour de France, c'est magique. Ça fait partie de notre culture ici en France. Donc avoir la chance de travailler dessus, c'est unique. On se sent vraiment chanceux d'être présent sur le Tour et on donne beaucoup pendant ces trois semaines pour donner un beau spectacle.
Ouais, vous avez été avec nous hein, plusieurs fois en Australie. D'ailleurs, vous travaillez sur l'étape du Tour. Aujourd'hui, vous travaillez à ASO avec l'organisation du Tour de France. Expliquez-nous un petit peu votre rôle, parce que là, aujourd'hui, on est assis dans une zone technique à l'arrière du van d'SBS, juste pour décrire ce qu'on fait. Et tout ça, c'est en partie vous qui installez, vous organisez ça. C'est, vu de l'extérieur, ça a l'air d'être un casse-tête chinois.
Effectivement, vu de l'extérieur, ça peut faire peur, et donc on le prend morceau par morceau. Donc moi, j'appartiens au service logistique chez ASO, au Tour de France. Et mon rôle, en fait, c'est de coordonner l'ensemble des moyens techniques qu'on met en œuvre pour produire le Tour de France. C'est beaucoup, beaucoup de véhicules de télévision, de radio, qui permettent de retransmettre la course et de la faire vivre à travers le monde. Et en fait, tout au long de l'année, on travaille avec nos collègues du cyclisme, qui repèrent les sites, qui nous explique s'il y a des contraintes spécifiques. Et en fonction de ça, nous, on fait ensuite le lien avec l'ensemble de nos prestataires pour commander les bons équipements au bon moment, aux bons endroits. Et puis, durant le tour, on fait tout le suivi à leur côté. On s'assure qu'ils travaillent dans de bonnes conditions, qu'ils ont tout ce qu'il leur faut, qu'ils ont toutes les informations et surtout que leur travail correspond aux attentes de la course.
Mais c'est presque incroyable parce que c'est... On est dans presque l'invisible. Si on regarde pas de très près, on voit une ligne d'arrivée, on se dit il y a 180 coureurs qui vont monter cette côte et qui vont la passer, basta. Mais en fait, tout ce qu'il y a derrière, quand on est dans cette bulle, on se rend compte à quel point c'est un fourmillement total de choses et d'autres. Hein. On parle de télévision, on parle de sécurité, on parle de police, on parle de catering, comme on dirait en anglais. C'est juste incroyable la logistique derrière.
Oui, on nous voit très peu à l'image. Hein. Ce qu'on montre à la télé, ce dont on parle à la radio, c'est la course, c'est les coureurs. Alors on voit certains des éléments qu'on met en place, comme la ligne d'arrivée, comme les barrières, comme les points kilométriques. Tout ça, ça passe en télé. Mais à côté de ça, effectivement, on a environ sur une arrivée 300 personnes, plus d'une centaine de camions qui sont là pour s'assurer justement que vous voyez de belles images. Donc on travaille dans l'ombre. Et c'est un peu aussi ce qui fait le plaisir de notre métier. On n'est pas sous les projecteurs, mais on est à côté de la course, au bord de la course, et on en voit les coulisses.
Et ce Tour de France, c'est 111e édition hein, de ce Tour de France. On sent vraiment, quand on est un peu dans le circuit vélo, que le Tour de France, c'est la reine des reines en termes de course sur la route, sur le circuit, mais dans la logistique aussi, parce que c'est vraiment le leader dans l'événementiel sportif. Enfin, on parle des Jeux Olympiques, mais c'est pas des sites itinérants. L'itinérance du Tour de France fait que, forcément, avec la difficulté des choses, on peut pas dire autrement, le Tour de France, c'est vraiment le maillot jaune de l'événementiel sportif.
Ouais, c'est un événement très très complexe. On change de place 21 fois tout au long de l'épreuve. Donc on se déplace tous ensemble. Parfois on va dans des endroits qui sont difficilement accessibles. Donc on est obligé d'adapter nos moyens. Effectivement, l'itinérance, c'est ce qui fait la spécificité du Tour de France. Mais tout le monde y est très attaché. Hein. On a l'habitude à dire que il y a quelqu'un qui a imaginé ça en 1903, cette folle aventure. Et aujourd'hui, on est un peu les héritiers de ce projet. Et c'est à nous de continuer à le porter. C'est un événement qui est plus grand que nous tous. Mmh. Tu viens de le dire, 111e édition.
C'est plus grand que les guerres mondiales. Enfin, c'est plus grand que tout, en fait. Hein,
rien n'a arrêté le Tour de France. Ouais. Même le Covid n'a pas arrêté le Tour de France.
Il y a eu des guerres mondiales qui ont quand même arrêté le Tour de France. Mais là, fallait quand même... là c'est la limite. Je veux dire, c'est la limite...
Le Tour de France sait s'adapter, se transformer pour aller au-delà de tous les défis qui peuvent nous être lancés. Et c'est peut-être ce qui en fait sa force et sa spécificité.
Vous avez la chance de voir les villes avant l'installation. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai toujours dit que ce serait génial d'avoir un drone pour nous de voir la fourmilière s'installer. Mais vous, quand vous voyez les villes et quand vous voyez le sourire des enfants sur le bord des routes, le sourire des grands-mères, des grands-pères, de voir le Tour de France, ça doit être quand même sacrément jovial pour vous de se dire, bon, voilà, on apporte le bonheur dans une ville. Bon, on s'en va assez rapidement, mais quand même, finalement, on a apporté le bonheur pour la journée.
Ouais, effectivement, c'est une grande fête, le Tour de France. C'est 3500 km de sourire. Hein. Ça m'arrive parfois de travailler le matin au village départ et de me rendre ensuite sur l'arrivée. Ça m'arrive d'emprunter le parcours. Avant les coureurs, 2-3 heures avant les coureurs, eh ben c'est déjà noir de monde. On a une voiture avec le logo Tour de France, tout le monde nous fait coucou. On n'est pas des directeurs d'équipe, ouais, ouais. On n'est pas des sportifs, mais les gens sont heureux de nous voir. Ils ont attendu ça toute l'année, ils ont sorti leur table au bord de la route, ils font des barbecues, ils sont avec leurs amis. C'est l'été, il fait beau. C'est vraiment le cliché de la France au mois de juillet.
Mais on va le prendre. En tout cas, c'est ce qu'on met à l'antenne sur SBS tous les soirs. Merci Florent de nous avoir un petit peu détaillé le côté logistique de ce tour.
Merci à vous.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
On continue avec le sport basket cette fois-ci avec le dénouement de la NBA. Un dénouement avec un hommage aux Celtics de Boston, le récent champion. Je vous propose un extrait de Mondial Sport de RFI avec Hugo Moissonnier qui est avec Malik Dao, Charles Audin ainsi que le Wemby reporter Théo Quintard.
Une ambiance absolument extraordinaire à Boston pour fêter le 18e titre. Les Boston Celtics peuvent exploser. 106-88, c'est le score final. Les Celtics sont champions NBA 2024.
C'est marrant parce qu'en basket, quand Boston est champion, Xavier, on a l'impression que le trophée rentre à la maison. Même si ça fait 16 ans qu'il n'était pas venu ici. Quelle délivrance!
Waouh, c'est magnifique! C'est magnifique!
Mais d'abord, pour ouvrir notre émission, nous allons refermer un chapitre. Je vous en parlais le 17 juin dernier. Les Celtics de Boston remportaient le titre de champion NBA. Victoire 4-1 à l'occasion des finales. Finales les opposant aux Mavericks de Dallas. 18e sacre d'une franchise, donc les Celtics de Boston, parmi les plus emblématiques de la grande ligue américaine, la NBA, une NBA que suivent nos MVP à nous. Bonjour Malik Dao.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Bah ne rigolez pas, c'est vrai, ancien champion de basket ivoirien, que voulez-vous être d'autre qu'un MVP? En plus vous êtes journaliste, donc c'est parfait, vous êtes tout à fait à votre place. À sa place également, Charles Todin, journaliste pour le site internet The Free Agent. Bonjour Charles.
Bonjour Hugo, bonjour tout le monde.
Et le Wemby reporter correspondant à San Antonio auprès des Spurs de Wembanyama, Théo Quintard. Bonjour Théo.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Alors on va quand même être honnête vis-à-vis de nos auditeurs. Là c'est plutôt une correspondance en direct des Spurs de La Roche-sur-Yon pour Théo Quintard qui prend quelques vacances bien méritées. Au moins pas de décalage horaire pour vous Théo. Aujourd'hui, bienvenue les Celtics, je le disais, de Boston, franchise historique. Théo, je commence par vous, justement. Hein, vous avez quand même un regard d'Américain. C'est pas rien de les voir être sacrés. Si on était en Europe, et qu'on parlait football, c'est un peu comme quand le Real remporte une énième Ligue des Champions ou Liverpool, une première Ligue. C'est une franchise historique, et un peu comme Liverpool d'ailleurs en football, qui renoue avec son passé glorieux après quelques années de disette.
Ouais, c'est ça, 18e titre de champion NBA, et du coup ils redeviennent la franchise la plus titrée de l'histoire. Mais voilà, je trouve que l'ambiance de ces derniers jours pour raccrocher un peu ce titre à l'actualité est un peu bizarre, puisque la franchise, figurez-vous, est à vendre. Donc voilà, Tatum a prolongé, mais voilà, il y a des choses un petit peu bizarres, je trouve, qui se passent à Boston. Ça devrait être la fête, la joie, ça l'est, mais là voir la franchise à vendre, ça fait un peu bizarre pour voilà, une franchise qui vient de remporter un nouveau titre NBA.
Bah, c'est après la réalité aussi des sports américains qu'on regarde parfois de manière admirative en France ou en Europe, mais il y a cette réalité du business qu'on n'aime pas toujours, nous, quand ça touche par exemple au football, le sport plus européen évidemment que le basket. Malik Dao, c'est une réalité, voilà, il y a le business qui vient parfois un petit peu gâcher l'aspect purement sportif.
Oui, je crois qu'on a de moins en moins de passionnés de basket que d'hommes d'affaires dans les franchises NBA, et ça c'est un problème. Aujourd'hui, moi je me satisfais de voir un monsieur comme Steve Ballmer, le propriétaire des Clippers de Los Angeles, qui lui est un vrai passionné, qui assiste à tous les matchs, qui vibre aux exploits de ses joueurs, plutôt que quelqu'un qui valorise une franchise et qui derrière la revend pour avoir du bénéfice. Parce que comme disait Théo, hein, ils sont à peine champions, que la franchise est à vendre, et ça augure de certains lendemains incertains.
Charles Todin, notre ami The Free Agent, même vous n'étiez pas concerné par la draft, malgré le titre de votre site internet The Free Agent. Quels sont les joueurs qui ont marqué la saison des Celtics de Boston, ou plutôt y a-t-il des joueurs qui l'ont marqué, étant donné que j'ai lu que c'était l'un des plus beaux collectifs de l'histoire de la NBA qui avait remporté le titre cette année?
Ouais, l'équipe a dominé outrageusement toute la saison, que ce soit la saison régulière et puis même après en play-off, hein, ils ont roulé sur absolument tout le monde. Les joueurs qui vont ressortir, bah c'est les Jays, comme ils les appellent aux États-Unis, c'est Jaylen Brown qui a été élu MVP de la finale, et Jason Tatum qui a signé du coup son joli petit contrat par la suite. C'est vraiment ces deux joueurs qui ont été qui sont sortis du lot, malgré effectivement un collectif impressionnant, une profondeur d'effectifs qui est essentielle quand on veut aller loin. Donc on peut citer des Jrue Holiday, des Al Horford, hein, qu'il faut saluer parce que il a brisé une disette très très longue de matchs de playoffs sans gagner de titre. Et pourtant, ils étaient privés de Kristaps Porzingis, leur pivot letton. Donc, même sans lui, ils ont quand même réussi à gagner, ce qui montre une valeur d'un effectif qui est juste monumental, même pour sur ce projet déjà pour l'année prochaine.
Théo Quintard, Jason Tatum, c'était vraiment, j'ai l'impression, celui qui a accroché, attiré tous les regards et toutes les caméras. Tout à l'heure, on entendait les commentateurs de beIN Sport, les commentateurs français, dire c'est magnifique, parce qu'on voyait Tatum avec dans les bras l'un de ses enfants, en train de fêter le titre sous une pluie de confettis, hein, les couleurs évidemment, et il y avait du vert et du blanc, les couleurs de la franchise. Jason Tatum, c'est une star qu'on doit apprendre à connaître quand on suit le basket ces derniers temps.
Oui, bien sûr, c'est une star. Voilà, il a signé le plus gros contrat de l'histoire de la NBA. Je crois que ça doit être, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais oui, voilà, c'est ça, c'est 315 millions de dollars. Mais voilà, mais je pense que au-delà de la star qui est Jason Tatum ou Jalen Brown, c'est plus le collectif qui a primé à Boston. Et puis on va pas se mentir aussi, la conférence Est est beaucoup plus faible que la conférence Ouest, et donc du coup peut-être qu'ils ont été moins surménagés, on va dire, au cours de la saison régulière. Et voilà, les playoffs sont ce qu'elles sont, et je pense que les Mavericks aussi étaient un petit peu à bout de souffle, et Luka Doncic, bon voilà, on a vu ses faiblesses un petit peu défensives, mais donc voilà, je pense que c'est la meilleure équipe de la ligue finalement qui a gagné. Il n'y a pas eu véritablement de surprise pour moi dans ces finales et ces playoffs NBA.
Alors si les Celtics ont été de beaux champions, ont-ils été les beaux champions, Malik Dao, d'une belle saison NBA, ce cru 2023-2024, qu'en avez-vous pensé?
Moi, je pense que sur l'ensemble de la saison, c'est mérité. Boston, c'est vrai, les amis l'ont dit, c'est un très beau collectif, mais Boston a réussi à vaincre le signe indien, c'est-à-dire une équipe qui est forte en saison régulière et qui s'écroule en play-off, mais qui s'écroule en play-off pas sur le plan strictement basket, qui s'écroule sur le plan mental. Et là, Boston a réussi psychologiquement à soigner ses peurs, à soigner ses craintes. Boston a réussi aussi une chose, c'est d'avoir élevé son niveau défensif, parce que tous les joueurs dont on parle, ce sont de très bons joueurs offensifs, mais l'incorporation de Jrue Holiday cette saison qui vient des Milwaukee Bucks, et d'ailleurs je pense que les Bucks doivent regretter d'avoir perdu Jrue Holiday, il a apporté cette caution, cette âme défensive qui leur manquait. Vous avez Derrick White qui est un des meilleurs défenseurs en un contre un sur le poste 1, sur le poste 2, et ça vous donne un collectif huilé, un collectif qui travaille. Et puis faut pas non plus oublier Joe Matsula, qui est un jeune coach, mais qui est un coach qui a de la poigne, qui a du caractère, et tout ça ensemble, ben ça vous fait un beau champion.
Donc une belle pub pour le collectif, mais concernant la NBA en général, Charles Todin, est-ce que ça a été une belle saison? Il y a eu des nouveautés, notamment un tournoi en plein milieu de la saison régulière. Il y a eu des choses peut-être à signaler du côté du All-Star Weekend, hein, pareil en perpétuelle évolution. Est-ce que ça a été une belle saison de NBA?
Ça a été une belle saison de NBA. Je trouve que le niveau globalement était plutôt intéressant, même si certaines stars n'ont pas été là toute la saison. Je pense à Joel Embiid notamment, qui a été blessé assez rapidement et qui a manqué une très très grosse partie de la saison. Et puis il y avait Wembanyama, donc forcément c'était une belle saison. On a découvert, beaucoup de gens du coup ont découvert Wembanyama, qui a répondu aux attentes, qui les a peut-être même dépassé. On a hâte de la suite, on a hâte de voir ce que ça va donner pour la saison à venir.
Vous aimez le foot? Branchez-vous sur The World Game. Regardez la A-League en ligne, la Coupe du Monde en direct, ou les meilleurs moments sur vidéo. Retrouvez les derniers résultats, les nouvelles et les analyses sur theworldgame.com.au ou sur Twitter.
Serait-ce un mirage que j'aperçois en toi?
C'était Mirage, une chanson de Walter Astral. Après une courte pause, on retrouve le directeur d'orchestre Stéphane Deneuve, qui en cette mi-juillet était à Sydney, en association avec Olivier Latry, l'organiste titulaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
J'ai le plaisir de recevoir le chef d'orchestre Stéphane Deneuve, qui est à Sydney cette semaine avec le Sydney Symphony Orchestra. Et il sera associé avec Olivier Latrie, organiste titulaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris, pour interpréter l'une des symphonies les plus célèbres de tous les temps, l'orgue symphonique de Saint-Saëns. Monsieur Deneuve, bonjour et bienvenue sur SBS French.
Merci beaucoup, enchanté d'être avec vous, merci.
Vous êtes ici pour une série de concerts. Cette performance met en scène une collaboration unique entre vous et l'organiste Olivier Latrie. Pouvez-vous nous parler de votre expérience de travail avec lui et de la manière dont vous envisagez de co-créer une performance réussie avec un soliste vedette comme Monsieur Latrie?
Olivier Latrie est aujourd'hui peut-être le meilleur organiste du monde. C'est l'organiste certainement le plus fameux de France parce qu'il est l'organiste de Notre-Dame de Paris. Et moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille régulièrement avec lui, dans le monde entier d'ailleurs, en Asie comme aux États-Unis, comme en Europe. Je dois dire que c'est toujours un immense bonheur parce que il est très inspirant. Il a une façon de registrer l'orgue, c'est-à-dire de choisir les jeux de l'orgue qui est très colorée, très française, et il a une musicalité, une virtuosité hors pair. Donc je suis très heureux qu'on puisse de nouveau travailler ensemble sur deux pièces, la troisième symphonie de Saint-Saëns avec orgue, mais aussi le concerto de Poulenc, et ça sera une vraie célébration de l'orgue parce que ici à Sydney, l'orgue a été en réparation, en rénovation depuis maintenant près de 3 ans, et donc c'est la réinauguration de l'orgue avec, comme je vous ai dit, vraiment peut-être le meilleur organiste au monde.
Le grand orgue de l'opéra de Sydney est un instrument vraiment remarquable, mais comment se compare-t-il aux autres orgues avec lesquels vous avez dirigé, et surtout quelles opportunités uniques sa taille et sa mécanique présentent-elles pour interpréter la symphonie de Saint-Saëns?
Alors, imaginez-vous que je n'ai jamais entendu l'orgue de Sydney, parce que les dernières fois où je suis venu diriger l'orchestre symphonique de Sydney, en fait, mon programme n'incluait pas d'orgue, et donc je n'ai pas eu l'occasion d'entendre l'orgue. Que je sais que c'était un orgue très puissant, très beau, et que Olivier aime beaucoup jouer. Donc je lui fais confiance, et je suis sûr qu'il en fera des merveilles.
La symphonie pour orgue de Saint-Saëns est une pièce appréciée, mais elle présente également un défi dans l'équilibre entre l'orchestre et l'orgue. Comment, en tant que chef d'orchestre, veillez-vous à ce que l'interaction entre ces deux puissants crée une expérience cohérente et percutante pour le public?
C'est une cohabitation très particulière parce qu'en fait, un orgue, c'est en quelque sorte déjà un orchestre à lui tout seul. Si vous voulez, quand je dirige la symphonie de Saint-Saëns, j'ai l'impression d'avoir en fait deux orchestres. L'orchestre symphonique et l'orchestre de l'orgue lui-même. Et effectivement, il faut trouver un moyen qu'on puisse entendre les deux sans que ça soit trop fort déjà. Et puis, donc il faut faire un travail de balance, de registration, de choix qui en permanence permet d'arriver à un résultat optimal entre les deux mondes sonores. Mais évidemment, je suis très aidé par Olivier Latrie, qui a une énorme expérience et qui prépare à l'avance toute la registration de l'orgue, qui change en permanence en fonction de ce que l'orchestre fait. Donc, je dois dire que ma tâche n'est pas si difficile, mais je fais attention, évidemment, à ne pas couvrir l'orgue quand l'orchestre joue fort et à ce que l'orgue ne couvre pas l'orchestre quand l'orgue joue fort aussi. Voilà, donc c'est tout un travail de collaboration pendant les répétitions.
Concernant donc ce concert, il se concentre essentiellement sur le répertoire français. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Avec plaisir. Donc moi, je dirige beaucoup évidemment de musique française à l'étranger, étant moi-même français évidemment. J'adore essayer de trouver un certain style reconnaissable qui est fait en fait d'harmonie colorée et de transparence. Et en fait, pour tout vous dire, quelque chose d'assez visuel. La culture française est très liée au visuel. On aime beaucoup la danse en France, on aime la mode, on aime évidemment les jardins à la française qui sont très symétriques, très organisés. Et Et en fait, je trouve que il faut en musique essayer de trouver des correspondances en quelque sorte entre l'univers visuel, poétique, même parfumé, et la musique elle-même. Et donc, en fait, je travaille toujours avec les musiciens pour, en général, alléger le son, le rendre plus transparent et essayer de trouver des couleurs particulières liées au style des compositeurs que je joue. Et en l'occurrence, là, ce sont trois compositeurs, Saint-Saëns, Francis Poulenc et aussi Guillaume Connaisson, qui est un compositeur que j'aime beaucoup, qui est un compositeur de notre époque, vivant, qui a mon âge, donc que je dirige beaucoup. Et dans les trois cas, en fait, il y a effectivement une chose permanente qui est ce style français, cette élégance française, cette transparence, délicatesse. Et on travaille avec l'orchestre pour trouver effectivement cette sonorité française.
Et pour revenir sur la symphonie pour orgue de Saint-Saëns, on dit qu'elle a transcendé la salle de concert et trouve même une grande popularité dans le cinéma. Pensez-vous qu'une telle exposition joue un rôle dans l'introduction de la musique classique à des nouveaux publics, et comment pouvons-nous continuer à combler le fossé entre la musique classique et la culture populaire?
Évidemment, la chose qui a rendu la symphonie de Saint-Saëns avec orgue très connue dans la culture populaire, c'est le film Babe, vous savez. Et moi, je suis ravi toujours quand la musique classique est utilisée dans des films ou dans des publicités, parce qu'en fait, ça permet d'avoir un accès à plus de gens et leur montrer que la musique classique propose des mondes musicaux si variés, si attrayants, et en l'occurrence pour l'œuvre de Saint-Saëns, des mélodies si belles. En fait, pour moi, c'est toujours un bonus quand on peut avoir effectivement une œuvre de musique classique qui est utilisée dans des médias populaires. Donc, moi, j'accueille ça avec grand plaisir et je suis ravi. Effectivement, si quelqu'un vient écouter cette symphonie parce qu'il a connu cette symphonie grâce au film Babe, pas de problème. À partir du moment où les gens sont dans la salle et peuvent entendre l'œuvre jouée merveilleusement par l'orchestre de Sydney, alors on a gagné la partie.
Évidemment, le cadre de l'Opéra de Sydney offre toute une autre expérience comparée à une salle de cinéma.
Évidemment, non, il y a pour moi toujours quelque chose d'assez magique à proposer à notre époque, de la musique acoustique. Elle n'est pas amplifiée. On a une 80-90 personnes, 100 parfois sur scène, qui jouent en fait beaucoup d'instruments différents et qui crée de l'unité, qui crée de la beauté ensemble, d'une manière complètement acoustique. Et je crois que c'est une chose tout à fait unique. Vous savez, les vibrations musicales, moi, je pense que la musique, c'est peut-être le plus court chemin d'un cœur à l'autre, en fait. C'est vraiment quelque chose qui touche immédiatement. Et je crois beaucoup à l'aspect acoustique des choses, que ça passe pas par une électronique, par une amplification, un haut-parleur. C'est juste vraiment une expression humaine qui a un accès direct au cœur, et je pense, oui, c'est toujours merveilleux de voir pour moi des gens qui parfois n'ont pas l'expérience d'un concert symphonique et qui en ressortent avec tellement de joie et tellement de surprise, en se disant à quel point c'était accessible, à quel point c'était direct, à quel point c'était émouvant. Et c'est ce que j'essaye de faire moi-même. Je crois beaucoup en l'accessibilité de la musique classique. C'est pas un art élitiste du tout, c'est juste beaucoup d'émotions qu'on peut offrir grâce aux grands chefs-d'œuvre des compositeurs de notre époque ou du passé. Et pour moi, c'est un privilège énorme de pouvoir offrir ça à tout le monde, vraiment tout le monde.
Et avant de nous quitter, est-ce que vous auriez un mot de la fin, ou pourriez-vous peut-être nous rappeler les dates où on peut venir vous voir en concert avec le Sydney Symphony Orchestra et Olivier Latrie?
Merci beaucoup. Écoutez, effectivement, je suis ravi parce qu'il y a plusieurs occasions. On fait le concert plusieurs fois. Donc, le premier concert sera ce mercredi 10 juillet à 8h du soir. Puis ensuite, on donnera le concert le 11 juillet, le jeudi 11 juillet, à 1h30 de l'après-midi, en matinée, comme on dit. Et ensuite, de nouveau, vendredi
à 8h du soir et une quatrième performance, une quatrième représentation qu'on fait le samedi 13 juillet à 8h du soir. Donc vraiment, il y a beaucoup d'opportunités de venir écouter ce concert. Il y a une œuvre récente de Guillaume Connaisson qui est une œuvre passionnée, passionnante et avec une énergie folle et très accessible, très touchante et que j'espère les gens qui la découvriront vont adorer comme je l'adore, qui commence le concert. Puis après, le concerto si sensuel, si beau de Francis Poulenc avec Olivier Latry, donc l'organiste de Notre-Dame de Paris, et pour finir la troisième symphonie de Saint-Saëns. Donc je crois que c'est vraiment une chose particulière de pouvoir entendre ici en Australie l'organiste de Notre-Dame de Paris et moi-même qui habite aux États-Unis maintenant, qui dirige un peu partout aux États-Unis, de me voir ici aussi, c'est assez rare si je puis dire ça moi-même. Donc j'espère que les personnes qui nous entendent auront l'envie de nous rejoindre et de vivre ces grands concerts ensemble dans l'Opéra de Sydney, qui est splendide d'ailleurs. Il a été très très bien rénové à l'intérieur, l'acoustique est magnifique, c'est vraiment riche et puissant, on est vraiment immergé dans la musique. Donc voilà, je suis absolument ravi d'être ici, j'adore cet orchestre, j'adore notre soliste et j'adore cette musique, donc j'espère qu'on pourra la partager tout ensemble.
Donc votre dernier concert a lieu le 13 juillet, la veille de la fête nationale en France, plus communément connue ici sous le nom de Bastille Day.
Avant la prise de la Bastille, selon la prise de l'Opéra de Sydney.
Voilà. Monsieur Stéphane Deneuve, merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur les antennes de SBS French.
Merci beaucoup à vous et passez un très bon hiver.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
C'était Le temps des pluies, une chanson de Pomme. À présent, une autre pause, mais restez avec nous. Après la pause, on retrouve Justin Taylor au micro de Jean-Noël Ducasse pour nous parler de sa tournée en ce mois de juillet avec le Brandenburg Orchestra.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
On est en ligne avec Justin Taylor, qui est en tournée en Australie avec The Australian Brandenburg Orchestra en ce mois de juillet. Bonjour et bienvenue sur SBS in French.
Bonjour.
Racontez-nous les concerts, vos débuts en Australie, ces concerts dans le cadre de Night in Versailles.
Oui, alors je suis très très heureux de venir pour la première fois en Australie et de jouer avec cet orchestre dont j'avais déjà entendu parler par leurs enregistrements. Et on va faire donc à Sydney et à Melbourne un programme autour de la musique française, de la musique versaillaise des 17e et 18e siècle. Et puis en seconde partie, il y aura aussi un peu de Johann Sebastian Bach, parce que c'est vrai que dès qu'on pense à la musique baroque et au clavecin, assez vite on arrive à cette figure majeure. Donc voilà, ça va être un programme très varié et je me réjouis vraiment de faire ces concerts.
Et vous jouez d'un instrument spécial ?
Absolument, moi je suis claveciniste. Alors des fois, quand je rencontre des gens dans le train, ils me disent « Vous êtes quoi ?» Donc je joue effectivement du clavecin, qui est un instrument à clavier qui de loin ressemble pas mal au piano. Mais en fait, l'émission du son est complètement différente. Parce que si le piano est un instrument à cordes frappées, le clavecin est un instrument à cordes pincées. Et c'était un peu l'instrument roi à Versailles, justement, au 18e siècle. Voilà, donc je fais carrière avec cet instrument.
Alors justement, parlons de votre carrière professionnelle comme musicien. Vous avez commencé très jeune, d'après ce que je comprends.
Écoutez, oui, j'ai commencé le clavecin, moi, à 9 ans. J'avais fait quelques années de piano d'abord, et puis j'ai découvert un peu par hasard cet instrument qui m'a tout de suite intrigué. Et donc voilà, et ça fait presque maintenant une dizaine d'années que j'ai la chance de faire des enregistrements et puis de parcourir le monde pour faire des concerts et partager mon amour du cassin.
Vous jouez aussi du piano, d'après ce que je comprends.
Oui, bah c'est vrai que souvent, certains clavecinistes font les deux. Moi, c'est vrai que j'ai commencé par le piano. Comme je vous disais, j'ai fait du cassin assez jeune, à 9-10 ans. Et depuis cet âge-là, je fais vraiment les deux. Et en fait, moi, ce qui me passionne, c'est surtout relier un compositeur avec l'instrument qu'il avait. Donc, c'est pour ça que le clavecin est indispensable pour jouer toute la musique baroque de Rameau, Bach, Purcell, Handel. Mais par exemple, un de mes prochains projets, c'est aussi d'enregistrer les préludes de Chopin, donc un compositeur romantique qui est né en 1810, mort en 1848, et d'enregistrer ses préludes sur l'instrument que Chopin avait, qui est en fait très différent des pianos d'aujourd'hui. Donc c'est cet alignement des instruments d'époque avec leurs compositeurs qui, moi, me fascine, et je pense que c'est aussi une très belle manière de transmettre cette musique au public.
D'après ce que je comprends, vous avez aussi une discographie impressionnante.
Impressionnante, je ne sais pas, mais oui, je crois que j'ai fait une dizaine d'enregistrements déjà, mais c'est vrai que c'est ce qui est aussi fascinant avec la musique baroque, c'est qu'il y a encore plein de musique à redécouvrir, donc c'est vrai que c'est très, très stimulant, très enrichissant. Et puis aujourd'hui, alors c'est vrai que le disque physique est, on a beaucoup dit qu'il était en perte de vitesse, mais il y a encore des gens qui écoutent des disques. Et puis toute la digitalisation a aussi permis de toucher un public finalement beaucoup plus nombreux. Donc je pense que l'enregistrement est pas mort du tout, bien au contraire. Et pour des instruments comme le cassin, qui sont pas forcément toujours faciles à entendre près de chez soi, c'est vrai que de faire des enregistrements qui sont ensuite mis sur les plateformes d'écoute, c'est voilà, un moyen de démocratiser le cassin.
Il y a des mentors qui vous ont influencé, qui vous ont inspiré?
Il y a bien sûr des grandes figures de classiniste. Je pense à Scott Ross, que moi j'ai pas pu entendre parce qu'il est mort avant que je naisse. J'ai entendu Gustave Léonard, qui est un des pionniers du cassin. Mais j'ai aussi eu la chance j'ai grandi à Angers dans l'ouest de la France. Et j'ai eu la chance de rencontrer dès le début une très très bonne professeure, Françoise Marmin, voilà, qui n'a pas eu de carrière en tant que soliste et qui est une professeure absolument géniale. Et donc finalement, c'est surtout elle qui m'a donné cet amour du cassin.
Un petit rappel du répertoire que vous allez présenter?
Alors la première partie sera une partie de musique exclusivement française, donc avec des compositeurs relativement connus comme Rameau, et puis d'autres un peu moins connus, d'Anglebert, Dufly. Mais ça montre un peu tout l'extraordinaire panorama de la musique française pour cassin, où il y aura un peu de cassin solo, du cassin en musique de chambre aussi, voilà, pour montrer différents aspects du cassin. Et la deuxième partie sera consacrée à d'autres compositeurs. Je commencerai par jouer le concerto italien de Johann Sebastian Bach, qui est un de ses chefs-d'œuvre. Ensuite, il y aura un concerto pour hautbois, et puis on va terminer avec une œuvre absolument exceptionnelle, qui est le concerto pour quatre cassins de Johann Sebastian Bach. Donc, faut vous imaginer 700 cordes pincées accompagnées par violon, alto, violoncelle. Donc voilà, ça va être vraiment un peu la fête du cassin pour terminer ce concert.
Et d'après ce que je comprends, vous allez rejoindre trois générations d'Australiens pour une ode au clavecin, c'est ça?
Oui, absolument. Oui, c'est vrai que c'est toujours un grand plaisir aussi de rencontrer d'autres clavecinistes. C'est vrai, comme c'est un peu comme le piano, c'est un instrument relativement solitaire. On n'a pas vraiment l'habitude de jouer souvent avec d'autres clavecinistes. Donc là, je me réjouis vraiment de rencontrer Paul Dyer, qui est donc le directeur et le chef de l'Australian Brandenburg Orchestra, et deux autres clavecinistes que je connais pas encore. Mais voilà, justement, ce soir, on se retrouve tous pour apprendre à se connaître et puis travailler sur cette œuvre qui est assez géniale.
Et quelle a été votre réaction quand vous aviez reçu l'invitation pour jouer avec The Australian Brandenburg Orchestra?
Déjà j'étais très très heureux, très très honoré parce que c'est vrai que c'est évidemment une marque de confiance quand on est invité dans des orchestres comme ça assez loin de chez nous. Et très vite, j'étais aussi très touché de voir l'enthousiasme qu'il y a autour de cet orchestre, de la musique baroque, parce que c'est vrai que bon, moi j'habite en France, donc ça fait longtemps qu'il y a cette tradition de l'interprétation historique de ce répertoire. mais c'est pas évident partout. Même aux États-Unis, par exemple, on pourrait se dire qu'il y a une grande tradition, mais j'y suis allé récemment, en fait, pas tant que ça. Et de voir qu'il y a voilà toute cette énergie qui est déployée en Australie pour faire vivre ce répertoire, ces instruments, j'étais très 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 heureux et donc modestement très content de participer à cet élan.
Justin Taylor, que diriez-vous aux jeunes, surtout qui nous écoutent, pour venir assister au spectacle programmé pour ce mois de juillet?
Eh bien, si vous connaissez la musique baroque, on vous a préparé un petit programme où il y a que des œuvres absolument géniales. Et si vous connaissez pas du tout, il faut se dire que en fait la musique baroque est beaucoup plus proche de la musique actuelle que ne l'est par exemple une symphonie de Mozart ou un opéra de Wagner. C'est un peu basé, je dirais, sur les mêmes fondamentaux que la musique de nos jours, c'est-à-dire la danse, le rythme, des carrures assez claires qui se répètent. Donc en fait, c'est une musique beaucoup plus accessible que ce qu'on imagine. Et vraiment, je pense que c'est une musique qui peut vraiment toucher tout le monde. Donc voilà. En tout cas, moi, je connaissais pas du tout. Et c'est d'avoir été en contact à un concert comme ça, un peu par hasard, qui m'a fait aimer cette musique. Donc je pense qu'il faut y aller sans aucun a priori. Et ça peut que vous plaire.
Et peut-être une dernière question. Vos autres projets après les concerts en Australie?
C'est vrai que l'été, c'est souvent une période très chargée pour les musiciens. Donc après l'Australie, je retourne en Europe pour faire des récitals en Pologne, au Portugal et puis en France au Festival de la Rogue d'Oteron, qui est un très grand festival de piano et puis maintenant de classin. Et puis après, début août, je rejoins mon ensemble de musique de chambre et on fait aussi pas mal de concerts entre la France, la Belgique, l'Allemagne. Et voilà, un été bien chargé.
Justin Taylor, merci d'être sur les ondes de Radio SBS et bon séjour en Australie.
Merci à vous. Merci beaucoup. À la prochaine.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Catherine Ringer qui nous interprétait sa chanson Love Me Please. Et ceci nous amène à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis ce samedi après-midi. On se retrouve demain dimanche dans notre prochain programme. Bon après-midi et à bientôt.
Entendre d'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.